Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier Université d'Excellence. Codéine, tramadol, buprénorphine, fentanyl, oxycodone. Si vous avez croisé le chemin de ces médicaments, c'est que vous avez également croisé celui de la douleur. Aujourd'hui, Allume la science vous emmène sur le terrain très sensible des analgésiques opioïdes. Qu'elles soient provoquées par une migraine, une intervention chirurgicale, une blessure ou une maladie, supporter la douleur n'est pas une option quand un simple comprimé peut parfois suffire à la faire disparaître pour quelques heures au moins. Alors, soulager la douleur, oui, bien sûr, mais à quel point et jusqu'où ? Une question au cœur de ce que certains appellent la crise des opioïdes, ou comment arbitrer entre douleur et effets secondaires quand ces derniers entraînent parfois la mort. Un dilemme qu'il sera peut-être possible de bientôt contourner grâce aux travaux menés par notre invité et son équipe, bien sûr. Il est chercheur à l'Institut génomique fonctionnel et ses découvertes ouvrent la voie à une nouvelle génération d'opioïdes sans dépendance ni effets secondaires. Lourd. Ces résultats ont été publiés en septembre dernier dans la revue Molecular Cell. Rémi Sounier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Elle provoque elle aussi des effets secondaires en pagaille et peut vous rendre addict à la science. À mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons sur le campus Richter, où Dimitri Dubois nous fait découvrir la plateforme d'expérimentation en économie, le LIM. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors Rémi Sounier, comme toujours dans cette émission, nous allons commencer par poser les bases. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un analgésique opioïde ?
Alors un analgésique opioïde, ou opioïde tout simplement, c'est une molécule qui est dérivée de l'opium à la base, c'est les opiacés. Et toutes celles qui vont interagir avec les mêmes récepteurs vont être appelées opioïdes parce qu'elles vont être chimiquement... construites, comme le tramadol, par exemple, est chimiquement construit, et d'autres molécules de la même famille. Voilà.
Et alors, pourquoi est-ce que ces opioïdes ils sont plus puissants pour supprimer la douleur que l'aspirine ou le paracétamol, par exemple ?
Alors, principalement parce qu'ils ne ciblent pas les mêmes récepteurs dans notre corps. Voilà, tout simplement. Les récepteurs opioïdes sont sur les douleurs aiguës et chroniques. L'aspirine cible d'autres récepteurs pour enlever la douleur.
Donc là, on parle de crise des opioïdes, mais depuis quand on les utilise, ces opioïdes ?
Alors, en fait, les opioïdes, ou l'opium, à la base, est utilisé depuis à peu près 5000 ans. On n'a pas réellement de date de début, mais c'est très ancien. C'est utilisé depuis des millénaires. Par contre, les molécules purifiées type morphine, c'est début du 19e siècle. Et la dérivée avec tout ce qu'on sait derrière, des trafics d'opium, etc., dans le 19e siècle, et au niveau de la Chine, etc.
Alors, dans votre étude, vous faites un constat qui est qu'en 2019, aux États-Unis, les opioïdes auraient été responsables de 70 000 décès, qu'il y en a également en France et en Europe. Ils sont dus à quoi exactement, ces décès ?
Alors là, cette partie-là, c'est au-delà on va dire, des effets secondaires du médicament. C'est un mauvais usage des médicaments. C'est pour ça que c'est plus une crise sociétale qu'une crise, on va dire, d'un médicament qui aurait des effets qu'on n'aurait pas prévus au départ. Non, on sait les effets secondaires de ces médicaments. Par contre, là, c'est un effet secondaire des effets qui sont dus à une mauvaise prescription, à une utilisation trop importante d'opioïdes. Et un des problèmes des opioïdes, c'est la dépendance. Il n'y en a aucun qui échappe. À force d'utiliser, on crée une dépendance et donc on peut utiliser l'individu lambda. C'est pour ça, aux États-Unis, c'est vraiment le plus gros problème. C'est que ça touche des gens lambda. C'était mère de famille, père de famille, avec aucun antécédent. Ce qui est différent des années 70, où là, c'était les héroïnomanes, qui étaient vraiment, on va dire, la société en difficulté, etc. Là, c'était des individus normaux qui ont, qui créent des dépendances et qui détruisent à la fois leur vie, mais aussi toute leur société. Ils perdent leur boulot, etc. Donc c'est vraiment une crise sociétale due à un effet de mauvaise prescription médicale.
Alors ce lien justement entre douleur et dépendance, on l'explique comment ? Qu'est-ce qui...
Alors c'est une aussi des particularités des opioïdes, c'est qu'ils entraînent des effets un peu euphorisants, récréatifs. C'est pas pour rien qu'ils sont utilisés aussi de ce côté-là. Et en fait, ce côté, ben, on a l'impression de par exemple, l'héroïne, on a l'impression d'être un héros, ou d'un super-héros, et donc on y va à fond, et puis quand il n'y a plus l'effet, on devient un peu déprimé, etc. Donc on reprend le médicament, et en fait, avec le temps, il faut augmenter la dose pour que le récepteur donne ces effets-là, et donc on crée une dépendance, comme n'importe quelle autre dépendance, alcool, etc. Hein, c'est le même...
Vous avez utilisé le mot récepteur, donc on va beaucoup en parler pendant cette interview. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un récepteur et comment ça fonctionne justement avec ces opioïdes ?
Alors, un récepteur, c'est une protéine qui se retrouve à la surface de nos cellules, par exemple, et les récepteurs opioïdes font partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G, et c'est la plus large famille qui existe chez l'homme. On a à peu près 800.
800 récepteurs ?
800 récepteurs différents.
Ouais. 800 types de récepteurs.
Voilà, 800 types de différents. Et par exemple, on en a dans les yeux, c'est ce qui nous permet de voir. Et voilà, on capte la lumière et il s'active. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ? Il est à la surface de la
cellule. Il est à la surface. Il récupère une molécule, dans le cas des récepteurs opioïdes, un opioïde, et va activer les voies de signalisation propres à ce récepteur et entraîner l'effet qu'on a envie, l'antalgie, donc l'antidouleur. Mais des fois, il va entraîner d'autres effets. Ceux-là, on aimerait les enlever, mais des fois, on ne peut pas forcément tous les enlever.
Voilà. Alors justement, vous parlez de voies de signalisation. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on pourrait actionner le bouton antidouleur du récepteur sans forcément actionner le bouton récompense ou plaisir qui, lui, va susciter l'addiction ensuite ?
Alors, en théorie, je dirais oui. C'est ce qui a été proposé dans les années 2000 en faisant des souris on enlevait des voies de signalisation. Il y a 3-4 ans, ces travaux sont remis un peu en doute. Ce n'est pas aussi blanc-noir. Après, en théorie, je dis oui, et peut-être pas sur les opioïdes, mais sur d'autres récepteurs, ça sera peut-être possible. Et parce qu'il y a une autre complexité avec les récepteurs opioïdes, c'est qu'il y en a à différents endroits dans le corps, dans le cerveau, dans l'intestin. Et par exemple, la morphine, si vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on vous dit, c'est est-ce que vous allez aux toilettes ? Parce que le premier effet secondaire qui pose problème pour la morphine, c'est la constipation. Et peut-être que la voie antalgie est aussi activée, et les constipations par la même voie de signalisation.
Donc c'est dans pas ce aussi... cas-là, on ne pourrait pas choisir...
On pourrait difficilement choisir, mais par contre, on va peut-être créer des molécules qui vont cibler que le cerveau et pas les intestins. Mmh. Donc il y a des moyens de réguler ça, mais ce n'est pas aussi... blanc-noir avec un bouton on-off encore.
Alors, vous avez dit qu'il y avait 800 types de récepteurs, mais à vous entendre, par contre, des récepteurs, on en a beaucoup.
Dans le corps, on en a des milliers.
Des d'accord. Milliers,
mais ils ne sont pas tous exprimés partout. Mm-hmm. Par exemple, les récepteurs au niveau de la vue, ils ne sont qu'au niveau des yeux. On n'a pas besoin de les avoir à d'autres endroits. Et les récepteurs opiacés, c'est pareil, ils sont beaucoup dans le cerveau. Pas mal dans l'intestin, à d'autres endroits aussi du corps.
Et est-ce que tous les douleurs, par exemple, est-ce qu'un mal de tête va impliquer le même récepteur qu'une rage de dents ou qu'une douleur post-opératoire, par exemple ?
Non, pas forcément. Non, ouais. Pas forcément.
Et celui que vous avez étudié, vous, plus particulièrement, c'est le récepteur de type mu, c'est
oui.
Ça ? Et vous commencez à bien le connaître, parce que déjà en 2012, l'équipe de Sébastien Granier, qui co-dirige votre équipe, pardon, avait obtenu la première structure 3D de ce récepteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et comment est-ce qu'on fait pour obtenir une structure en 3D d'un récepteur ? Vous avez procédé comment ?
Alors ça, c'est une technique qui date un petit peu maintenant, mais qui développe encore, et les prix Nobel sont encore décernés grâce à ça. C'est la cristallographie par rayon X. Et en 2012, Sébastien Granier a sorti la structure avec le prix Nobel de chimie, Brian Kobilka, qui avait travaillé sur la première structure des récepteurs couplés aux protéines G, qui datait un petit peu, 2007, mais voilà, c'est lui qui avait sorti les premiers travaux comme ça. Et Sébastien était allé dans son laboratoire pour savoir comment on faisait, apprendre toutes les techniques, et en 2012, ils ont sorti la structure là-bas.
Et qu'est-ce que ça apporte de connaître la structure 3D de ce récepteur mu?
Alors, ça nous apporte beaucoup d'informations pour essayer d'avoir, pour mieux construire des nouveaux médicaments, parce qu'on peut utiliser les ordinateurs à partir de là pour faire un modèle et essayer de regarder si la molécule, une nouvelle molécule peut interagir avec le récepteur. Donc ça, c'est un travail, même si c'est une structure statique, les ordinateurs nous permettent d'avoir un peu de dynamique, de voir un petit peu bouger et donc de créer des nouveaux médicaments. Et ça permet de vraiment cibler de nouveaux médicaments qui seraient potentiellement plus intéressants. Et non pas juste chercher à avoir une molécule qui va être proche chimiquement et dont on ne saura pas les effets.
En 2015, votre équipe a franchi une nouvelle étape, c'est-à-dire que vous avez pu observer, alors là je reprends les termes de votre communiqué, vous avez pu observer les changements de conformation du récepteur mu, donc lorsqu'il rentre en contact avec un analgésique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il change de forme? Qu'est-ce qui se passe en fait au moment où l'analgésique rentre en contact avec le récepteur?
En fait c'est ça, c'est les récepteurs ou n'importe quelle protéine dans le corps humain, en fait c'est dynamique, ça bouge, mais ça bouge de certaines manières. Et là, c'est quand il y a le ligand qui arrive dessus, dans la poche de liaison, on a des changements conformationnels, donc des parties du récepteur qui vont se déplacer, etc., qui vont permettre à d'autres protéines ou de venir interagir, alors qu'avant, elles ne peuvent pas interagir. L'intérêt qu'on a eu, c'est que la structure cristallographique apporte une image. En gros, c'est la photo. On va être très schématique, c'est la photo. Et nous, les études qu'on a faites, en fait, on est... On n'est pas encore au film, parce que ça, c'est un niveau encore au-delà, mais on a des points d'étape. Donc, c'est la course de relais, et on sait qu'on avait le départ, on a l'arrivée, on n'a pas tout commencé à passer la course, mais on a plusieurs points. Voilà.
Et alors là, vous parlez d'étape, il y a une nouvelle étape qui vient d'être franchie quand même avec cette étude que vous avez publiée, en comprenant les rouages moléculaires qui sont impliqués dans la réponse antidouleur. Qu'est-ce que ça vous apprend exactement sur la façon dont ça fonctionne, ce récepteur?
Là, l'étude qu'on vient de sortir nous donne vraiment une idée encore plus précise de ce qui se passe au niveau des conformations du récepteur et de la dynamique. Et ce qu'on ne savait pas forcément au départ, même si on s'en doutait, c'est qu'en fonction des opioïdes qu'on a utilisés, qui activent certaines voies, le récepteur ne réagit pas de la même manière. Et ça, c'est la première fois qu'on le montre à un niveau atomique.
Donc. D'accord. Juste pour revenir, vous avez parlé de ligand tout à l'heure, quand on n'a pas explicité le terme.
Ah, oui.
Est-ce que c'est la molécule qui vient activer le récepteur,
oui,
qui est le ligand?
Donc
ça
ligand,
peut être le médicament
molécule, ou... c'est le médicament ou n'importe quel autre... molécule qui va activer le récepteur ou inactiver le récepteur. Le ligand n'a pas de fonction à proprement parler avant qu'il interagisse avec le récepteur. Et en fonction de ce que ça va être, si c'est un agoniste, donc il va activer, si c'est un antagoniste, il va inactiver le récepteur.
D'accord.
Alors, pour parvenir à ces résultats, vous avez eu recours à des méthodes très innovantes, notamment Oxygène. C'est un supercalculateur, donc un des supercalculateurs les plus rapides de France. À quoi il sert? On a du mal à faire le lien avec vos recherches.
Alors, c'est pour ça, la recherche qu'on a faite, c'est vraiment, on utilise trois techniques en parallèle pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est très difficile par une seule technique de tout comprendre. Donc on répond à certaines questions et on essaye de faire le lien entre les techniques. Et la dynamique moléculaire, ça demande des supercalculateurs pour le faire. Parce que un ligand ou un opioïde qui va interagir avec le récepteur et les voies de signalisation vont mettre plusieurs... Ça va être de l'ordre de la milliseconde. La dynamique moléculaire qu'on est capable de faire, ça va être plusieurs microsecondes. Donc, il faudrait des années entières, dizaines d'années, pour arriver à faire les calculs d'interaction générale, ce qui n'est pas possible. Mais en utilisant des techniques un peu spéciales, on va dire des tricks en anglais, des petites astuces, on arrive à allonger un petit peu les temps de simulation pour essayer de voir comment le récepteur va se mettre en place et comment il va bouger en fonction des agonistes ou des antagonistes qu'on utilise.
Alors, vous avez également parlé encore un peu de la méthode, utiliser la spectroscopie RMN. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et à quoi ça vous a servi, vous, dans vos recherches ?
Alors, moi, c'est mon travail réellement, parce que je suis spécialiste et spectroscopiste RMN de formation. Et en fait, c'est tout simplement la même chose que l'IRM, que peut-être beaucoup de gens ont déjà été pour faire une image au niveau du corps humain. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre un patient à l'intérieur de l'aimant, on met un tube rempli de protéines du récepteur et on va regarder les signaux de ce récepteur.
Vous avez précisé aussi que vous avez fait des essais sur des cellules vivantes. C'est ça que vous avez mis dans les tubes ?
Non. Les cellules vivantes, c'est encore une autre partie. Ça permet d'identifier correctement les opioïdes qu'on a utilisés, savoir s'ils activaient une seule voie, deux voies principales du récepteur. Dans le tube RMN, c'est vraiment des récepteurs purifiés. Donc, on est vraiment à l'état juste le récepteur unique. Il n'y a rien d'autre, en fait, à part un peu de sel pour qu'ils se sentent quand même bien. Mais voilà, globalement, c'est que le récepteur.
Donc là, on a compris donc avec cette publication, donc vous montrez des nouveaux rouages, mais par contre, on n'en est pas encore au stade de l'élaboration d'un nouveau médicament.
Non, on n'est pas encore au nouveau médicament. Par contre, c'est la première étape, on considère que ça va être une des premières étapes maintenant de designer un médicament avec, en amont, on saura s'il va pouvoir activer les deux voies ou une seule voie. Alors que jusqu'à présent, c'est au bonheur la chance. Une étude en 2016 a sorti un ligand agoniste qu'on a utilisé dans l'étude, le PZM21, qui est, c'est en faisant l'étude, ils ont vu, il est biaisé. Mais avant ça, il n'y avait aucun moyen de le déterminer.
Ça veut dire quoi, il est biaisé ?
Il va activer une seule voie de signalisation et pas l'autre voie.
Donc ça, c'est intéressant pour vous.
Voilà, là, c'est intéressant. Et là, en fait, ce qu'on démontre avec notre étude, c'est vraiment de pouvoir peut-être designer en amont et d'être sûr que le ligand va être biaisé et donc pas perdre trop de temps non plus dans le design de nouvelles molécules.
Très bien. Mais donc là, vous ouvrez la voie pour que d'ici quelques années, peut-être, on ait ce type de nouveaux médicaments.
Oui, on va essayer en tout cas.
Très bien. Rémi Sounier, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre question et d'être venu dans notre émission.
Merci à vous.
On file maintenant sur le campus Richter pour vous faire partager une drôle d'expérience, ou plutôt une drôle d'expérimentation, puisque nous avons participé à une des séances du laboratoire d'expérimentation en économie, le LIM. Et c'est Dimitri Dubois qui nous en ouvre les portes.
Dimitri Dubois, je suis ingénieur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Et donc je suis aussi responsable de cette plateforme d'expérimentation. L'idée, c'est de collecter des données à partir de décisions prises par des individus placés dans des contextes économiques différents. Donc ces décisions qui sont prises sur ordinateur. Et donc nous, on collecte des données qu'on va analyser derrière pour voir si telle ou telle politique publique est plus efficace que l'autre, si on peut avoir des mécanismes incitatifs pour amener vers de la coopération, vers de la coordination, etc. Ou amener les gens vers plus de coopération pour des problématiques environnementales. Donc c'est dans un environnement contrôlé, en laboratoire.
Ça se trouve à Richter, donc à la faculté d'économie. Elle existe depuis combien de temps, cette plateforme ?
Depuis 2004, donc ça va faire 17 ans qu'elle existe. En fait, en début d'année, j'envoie des mails sur les listes de diffusion des étudiants de l'UM. Et ensuite, quand on organise des sessions, on envoie des invitations et avec plusieurs créneaux possibles. Et c'est eux-mêmes qui s'inscrivent.
Mais alors, du coup, vous n'avez que des jeunes. Il n'y a pas des enquêtes pour lesquelles vous avez besoin d'avoir des personnes plus âgées ou... Là, c'est que des étudiants qui viennent.
Pour nous, c'est plus simple d'accéder à des étudiants. Puis on fait des expériences à la journée, donc c'est plus simple. Mais il n'y a pas que des étudiants dans le pool de sujets.
puisque les étudiants ont pu en parler à leurs parents, là, où ils sont plus étudiants, après ils sont plus étudiants, ils continuent à venir. Et quand on veut vraiment faire des expériences spécifiques avec une population spécifique, je sais pas, des agriculteurs, des traders, etc., on a aussi du matériel mobile et on se déplace. Mais il a été montré que dans un cadre standard avec les mécanismes d'incitation, parce que les sujets sont indemnisés par rapport à leur performance dans les jeux, finalement les étudiants sont les mêmes choses que les vrais gens, entre guillemets.
Alors justement, donc là, dans une minute très exactement, vous allez recevoir des étudiants ou un groupe de personnes. Le sujet aujourd'hui, on peut en parler ou pas?
Alors aujourd'hui, c'est essayer de déterminer quel est l'impact lorsqu'il y a ce qu'on appelle un background risk, un risque existant sur les préférences sociales des individus. On a fait une expérience de terrain en Indonésie, en fait, avec une population qui vit près d'un volcan, le Semeru. Notre objectif, c'était d'étudier comment ces gens-là, quand ils habitent dans une zone à risque, est-ce qu'ils ont une attitude vis-à-vis du risque différente des gens qui ne sont pas exposés à ce risque permanent. Donc on a fait une grande collecte de données en Indonésie, donc juste avant le Covid. Et là, on veut faire la même chose en labo, où on veut vérifier si ça se généralise en créant artificiellement un background risk, enfin un risque latent.
On vous laisse accueillir les gens et puis on se retrouve après l'expérience.
Tout se passe sur vos écrans. Vous allez avoir les instructions et puis l'écran de décision. Je suis là pour répondre à vos questions s'il y a besoin. Dans ces cas-là, vous m'appelez et je viendrai vous répondre en privé. Il est possible que vous ne finissiez pas tous en même temps, mais on va quand même attendre que tout le monde ait fini pour que ensuite je vous rémunère. Donc je vous appellerai par votre numéro de poste. Et donc quand je vous appelle, vous venez avec votre carte étudiant de préférence et si vous êtes étudiant, sinon avec une pièce d'identité. Première partie avec les curseurs, pensez à utiliser aussi les flèches du clavier.
Aline, tu viens de tester l'expérience.
Je pense que je m'attendais à avoir des questions plus ouvertes. Et oui, c'est assez surprenant comme format.
Ça a duré combien de temps ?
Une vingtaine de minutes, je dirais.
Donc, est-ce que tu peux nous parler justement concrètement, qu'est-ce qu'on te demande, quel exercice ?
Par exemple, il y avait un moment où il y avait un carré avec 100 cases. Sous ces 100 cases, on sait qu'il y en a une sous laquelle il y a une bombe et on peut choisir le nombre de cases qu'on va ouvrir. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi d'ouvrir 70 cases sur les 100. Et pour toute case ouverte où il n'y avait pas la bombe, on gagne un centime. Donc là, en l'occurrence, j'ai ouvert 70 cases, je ne suis pas tombée sur la bombe.
Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de questions ?
Oui, à un moment donné, on a une somme d'argent qui est répartie entre nous et un autre participant anonyme. Donc, il faut décider comment on répartit l'argent entre lui et nous. Est-ce qu'on lui donne 80 euros, qu'on en garde 20 ou l'inverse ? Est-ce qu'on prend 50-50 ? Voilà, il y a plusieurs options comme ça qui sont proposées.
Alors, l'expérience se poursuit encore, donc on va attendre un peu que des gens sortent. À l'expérience, donc qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'était la première fois déjà ?
Non, c'est pas du tout la première fois, ça fait déjà 3 ans que je participe aux expériences.
Qu'est-ce qui vous a motivé alors
Je suis étudiante, donc le fait de pouvoir gagner un peu d'argent à côté.
Et qu'est-ce que vous pensez globalement des expériences ? C'est pas si simple que ça en fait ?
Y en a qui sont pas simples du tout, la dernière que j'ai faite était très compliquée. Et c'était beaucoup de réflexions, de maths et tout, c'était super compliqué. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Et après il y en a qui durent plus longtemps, d'autres moins longtemps.
Poste 9, poste 7,
aujourd'hui il y avait un des deux avait une dotation et il devait décider comment il pouvait répartir cette dotation entre lui et une autre personne de la salle qu'il ne connaît pas en fait. Donc ça, on mesure vraiment une forme d'altruisme vis-à-vis de l'autre. Donc effectivement, on peut s'attendre à un partage égalitaire, mais pas forcément, pas du tout. D'ailleurs, l'économiste n'a aucun intérêt à le faire, puisque de toute façon, il n'y a pas de représailles, il n'y a pas d'incitation. Donc,
on ne connaît pas la personne.
On ne connaît pas la personne, donc de toute façon, un individu qui maximise son gain n'a aucune raison de donner. Voilà. Après, il y a d'autres motivations, mais en tout cas, s'il est optimisateur et qui cherche à maximiser ses gains, il n'y a aucune raison. Et après, il y avait d'autres questions sur... On voulait mesurer l'attitude vis-à-vis du risque avec le jeu des cases à retourner dans un équivalent d'un des mineurs. Puis, il y avait un autre jeu de partage aussi encore de deux montants entre deux individus.
On a vu des gens partir très tôt. Comment ça se fait ?
Alors, il y avait une première tâche, là, qui était une tâche d'effort. Il y a quelques expériences comme ça, où au lieu de partir avec une dotation que l'expérimentateur donne, on fait faire une tâche d'effort pour qu'il y ait le sentiment d'avoir gagné cet argent. Donc, c'est le leur. Au moment où ils commencent la deuxième partie, c'est leur argent, quoi. Et là, il y a quelques personnes qui n'ont pas réussi la tâche. Et donc, s'ils ne réussissent pas la tâche, l'expérience, là, c'est terminé. Quoi.
Ces résultats-là, ensuite, ils sont envoyés à qui ?
Alors là, on a collecté une session. Donc, on a, 18 personnes, donc 9 groupes indépendants. Et donc, on veut regarder comment le fait d'avoir un risque sur les dotations, soit la sienne, soit celle de l'autre, soit les deux simultanément, modifie les préférences sociales, c'est-à-dire les décisions de partage par la suite. Voilà. Donc là, il y a 4 traitements. Là, vous avez participé à un traitement sur 4. Et pour chaque traitement, il faut qu'on collecte entre 50 et 100 observations de groupe, donc entre 100 et 200 personnes. Donc là, c'est des sessions qu'on va faire beaucoup avec... beaucoup de sujets différents, des nouveaux participants à chaque fois.
Combien de sessions à peu près vous organisez par an sur cette plateforme ?
Par an, on en fait entre 20 et 160 ici dans le laboratoire et on en fait, après ça dépend des années, mais on en fait aussi pas mal sur le terrain. Et puis de plus en plus quelques-unes en ligne aussi.
Donc on l'a dit, les personnes sont rémunérées. Comment c'est financé tout ça alors ?
C'est de la gratification, hein. C'est pas de la rémunération, c'est de la gratification. Et donc c'est financé par des projets de recherche. On répond à des appels d'offres au niveau de l'Agence nationale de la recherche, par l'université aussi, le CNRS. Donc, habituellement en sciences sociales, la recherche coûte pas très cher, mais depuis qu'on fait des expérimentations, ça coûte assez cher. Donc, on essaye de paramétrer nos expériences pour que ce soit une rémunération moyenne autour de 10 euros de l'heure.
Il y a beaucoup de facultés d'économie qui ont des plateformes d'expérimentation comme ça.
Alors c'est pas automatique, il y en a 7 ou 8 en ce moment en France, donc pas tant que ça. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer, c'est plutôt ludique et c'est rémunéré et donc et ça fait avancer la science, quoi.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. Retrouvez-nous en podcast dès demain sur le site de Divergence FM et à partir de jeudi sur le site de l'Université de Montpellier. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, restez allumés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.